Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Être surpris, c'est être mis en défaut, c'est se prendre les pieds dans un décalage entre ce que l'on croyait savoir et la réalité. Mais ce trébuchement peut être tout à fait délicieux. Perdre ses repères, c'est la condition du plaisir, que ce soit un plaisir esthétique ou intellectuel. Récemment au cinéma, un film m'a surprise sur un sujet difficile. C'est « Je verrai toujours vos visages », un film réalisé par Jeanne Herry qui parle de la justice restaurative. Le principe, c'est de faire se rencontrer des condamnés avec leurs victimes ou avec des victimes du même type de crime, et tout ça sous la médiation de bénévoles issus de la société civile. Les histoires bouleversantes des personnages dans ce film et la manière dont elles m'ont déstabilisée m'ont donné envie de me plonger dans ces histoires de médiation où rien n'est jamais prévisible. Cette semaine dans Passage, l'histoire d'Emmanuel, victime des violences de son compagnon et qui pendant 3 mois a rencontré en groupe des détenus auteurs de violences conjugales, incarcérés dans une maison d'arrêt, sous la médiation de Marthe. Si vous ou quelqu'un dans votre entourage a été victime de violences conjugales, que vous choisissiez d'écouter ou non, prenez soin de vous. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
Je m'appelle Marthe, j'ai 38 ans. Je suis chef de service à l'association d'aide aux victimes à la Vive dans le Var, à Toulon, dans le 83. Et je suis devenue animatrice en justice restaurative il n'y a pas si longtemps. J'ai fait un master 2 en droits fondamentaux et j'ai pris un emploi dans un service de transfert d'argent. Et quand j'ai vu passer une annonce de travailler dans une association d'aide aux victimes, ben, ça a fait tilt chez moi. Et en fait, j'ai postulé pour ce poste et j'ai été prise. Alors moi, je suis arrivée au sein de l'association en décembre 2018. J'ai ma directrice qui est arrivée en août 2019. Et en fait, quand elle est arrivée, on avait ce dossier justice restaurative et dont personne ne s'était saisi. Donc, on a commencé à se pencher dessus toutes les deux. Et donc, elle m'a proposé de pouvoir le récupérer. Et au bout du tunnel, la signature de la convention et la rencontre avec mon binôme première surveillante à la maison d'arrêt de Draguignan. Et en décembre 2021, on se réunit pour commencer à élaborer un projet autour de la maison d'arrêt de Draguignan. Ce sont des rencontres détenues victimes, donc des personnes qui sont en détention et des victimes sur le thème des violences conjugales, mais pas de la même infraction. Donc ça se fait sur base du volontariat. Donc voilà, les personnes sont volontaires pour participer au processus et elles peuvent le quitter à tout moment. C'est important. Alors ça leur permet de libérer leur parole et de savoir que ce n'est pas une obligation et que ce n'est pas imposé. Les personnes ont une meilleure estime d'elles-mêmes et elles prennent leurs propres décisions en fait. Ce n'est pas vécu comme une contrainte. Et surtout, nous, au niveau de notre département, c'est la première fois qu'on va mettre en place cette mesure de rencontre détenue-victime. Et c'est une grande première. Donc la pression, elle est là, car en fait, de cette première rencontre va découler la suite, en fait, à savoir si le dispositif sera pérennisé ou pas. Donc, en tant qu'animatrice, j'ai beaucoup de pression, mais c'est une pression positive pour moi, parce que je fais confiance, en fait, au processus, que c'est possible. Donc je rencontre mon binôme Myriam, et donc c'est la première fois qu'une première surveillante va animer une mesure de justice restaurative en France. Elle quitte son bleu de travail pour être en civil et pour pouvoir mener des entretiens en tant qu'animatrice en justice restaurative et pas en tant que chef au niveau de la détention. Donc on rencontre 5 personnes victimes, on en sélectionne au final 3. Dont Emmanuel, et je suis très touchée par son récit et la manière dont elle va cheminer durant ses entretiens préparatoires jusqu'à ce qu'elle soit prête à aller dans le processus.
Je m'appelle Emmanuel, j'ai 36 ans, je vis dans le Var. J'étais restauratrice jusqu'en 2020. Ma vie bascule le 10 février 2020. Dû à une violence conjugale aggravée au couteau. Mon auteur de faits était sous emprise de Subutex et d'alcool. Il n'y avait pas de signe de violence jusqu'à ce soir-là du 10 février. Il était déjà sous traitement Subutex et là, il a accompagné ça avec une bouteille de rhum. Donc ça a fait un cocktail Molotov et tout a été... dramatique. J'ai subi un coup de couteau au bras gauche qui m'a sectionné l'artère humérale, le nerf radial, les 3 branches radiales et le muscle. Donc j'ai eu le temps de perdre déjà plus de 3 litres de sang au sol. J'étais en tachycardie et l'hôpital où j'ai été transférée n'a pas pu me prendre par manque de soins qu'il me fallait, donc j'ai été transportée dans un autre hôpital où j'ai été prise en charge pendant plus de 3 jours pour de la chirurgie. Donc une paralysie radiale, en fait, c'est qu'on n'a plus du tout la motricité du bras. Donc moi, c'était mon bras gauche. À savoir que la repousse radiale, c'est 1 mm par jour hein, et que mon nerf, il fallait plus de 18 mois de repousse radiale. Donc, tous les jours, je suis en rééducation de 13h à 17h pour éviter que ça se nécrose et arriver au plus vite à une possibilité de mouvement. Psychologiquement, c'est dur à se voir. C'est très dur à se voir. D'ailleurs, pendant mon handicap, j'ai perdu pratiquement 8 kilos. On se retrouve vraiment, on n'est plus rien, on est démoli. J'ai menti quand je suis arrivée à l'hosto. Après, on n'a pas cherché vraiment à comprendre ce qui m'était arrivé non plus. Mais sur le coup, j'ai menti parce que mon auteur de faits m'a accompagnée, il était à côté. Donc je n'ai pas pu évoquer immédiatement que j'étais victime de violences conjugales et que ce monsieur m'avait mis un coup de couteau. Une décision, je l'ai prise quelques semaines après de le foutre dehors, excusez-moi du terme, parce qu'il commence à être à nouveau violent, à vouloir me bousculer un matin. Donc j'ai dit de prendre toutes ses affaires et de partir, et c'est là où j'ai eu la possibilité de pouvoir contacter la gendarmerie et vouloir déposer une plainte. Et la peine a été donc de 1 an avec sursis, avec 2 ans de probation. Donc l'auteur des faits a fait 4 mois de prison, Et au bout de 4 mois, bah, il sort de la prison. Et j'ai eu l'impression, ce jour de tribunal, en fait, d'être victime déjà de mon auteur, mais d'avoir une honte parce que on n'est plus rien, quoi. On est déjà victime, mais en plus, on n'est pas entendu. Et l'auteur n'est pas condamné. Pour moi, ce n'est pas une condamnation. Il n'y a pas de justice. Et psychologiquement, ça a été hyper dur. Donc, une grande chance, c'est que j'ai eu l'association La Vive, qui était présente aussi dans mon accompagnement, qui m'a permis d'avoir plusieurs rendez-vous avec des psychologues. Et dès que j'en avais besoin, je pouvais aussi les contacter au téléphone. Heureusement que ces personnes étaient présentes aussi dans mon quotidien. Donc en 2022, je suis contactée par Marthe, qui est la chef de l'association La Vive, pour m'informer d'un nouveau processus qui est la justice restaurative. À ce moment-là, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit de la justice restaurative. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. C'est la première fois que j'entendais cette phrase au téléphone. Donc Marthe m'a expliqué que c'était des rencontres entre auteurs et victimes au sujet de la violence conjugale. À ce moment-là, j'ai trouvé le sujet très intéressant et je me suis proposée de suite à dire oui au téléphone. Et donc, Marthe m'a rappelé pour démarrer la première au sein de la prison de Draguignan, la justice restaurative. Donc, cette prison où on doit faire nos rendez-vous de justice restaurative est la prison où mon auteur de faits a été incarcéré. Donc, il y a toujours un petit quelque chose au cœur qui fait que, on est dans la prison où l'auteur de faits était dedans, quoi. Quand nous, victimes, on arrive, on doit présenter nos pièces d'identité, on dépose nos pièces d'identité pour récupérer des clés de casier pour pouvoir poser nos affaires dedans. On garde ces petites clés et puis après on passe devant un scan, on est contrôlé au niveau de nos vêtements, les chaussures, c'est comme à l'aéroport. Et après, on a les portes à passer, quoi. Donc, chaque officier nous ouvre les portes pour arriver jusqu'à la salle de théâtre.
À chaque porte, on entend le bruit de la porte et la porte est refermée derrière nous. Donc, en fait, on rentre dans un univers où on est enfermé et où on n'est pas libre de nos déplacements. C'est-à-dire qu'au moment où on est dans la salle de spectacle, surtout la première fois, on se dit, est-ce qu'on va ressortir de là, en fait ? Donc, les deux animatrices sont assises à côté. Les personnes victimes sont à la droite des animatrices, donc les trois personnes victimes. Il y a un membre de la communauté entre la personne victime et une personne auteur à côté. Un membre de la communauté, c'est une personne de la société civile qui a un intérêt à participer à une mesure de justice restaurative. Et donc, elles sont là pour être bienveillantes et pour être en soutien aux participants. Ce n'est pas leur espace de parole, donc elles ne sont pas invitées à intervenir, sauf si c'est nécessaire, mais elles sont là pour être en soutien aux participants. On débute la rencontre à 9h. Chaque personne se présente et fait une petite météo intérieure, comment elle arrive ce matin pour cette première rencontre détenue à victime. Voilà, si elle a bien dormi, si elle n'a pas bien dormi. À l'issue de la météo, là on commence les récits. On a ce qu'on appelle un bâton de parole. C'est très symbolique parce que c'est ce qui va permettre à chaque personne de pouvoir s'exprimer et de ne pas être coupée au moment où elle s'exprime.
Et ça permet en fait de retomber, de laisser la personne terminer et de pouvoir par la suite prendre ce bâton de parole avec plus de réfléchi, plus de calme et évoquer ce qu'on a sur le cœur à ce moment-là si on est en désaccord, mais pas avec de la colère, de l'impulsivité ou de l'agressivité.
C'est une page blanche et donc la rencontre débute, les visages sont crispés. On est vraiment au début du processus. Les personnes victimes sont plus dans l'action. On a l'impression qu'elles sont là pour en découdre avec les auteurs, alors que les auteurs sont beaucoup plus gênés et qui sont beaucoup plus en retrait et dans l'observation de ce que les victimes peuvent dire et de la manière dont elles vont amener les choses. Il y a des personnes, auteurs participants, qui n'osent pas regarder les personnes victimes, qui regardent leurs pieds, qui ont le regard fuyant, qui sont un peu recroquevillés sur leur chaise, alors que les victimes, elles ont une posture beaucoup plus expressive. Elles vont utiliser des gestes pour parler. On voit sur leur visage qu'elles ont des choses à dire, qu'elles ont envie d'être entendues et qu'elles ne repartiront pas de là tant qu'elles n'auront pas dit ce qu'elles ont à dire. Pendant la première rencontre, il y a une personne auteur qui pleure, donc qui s'isole. Et ce moment est accueilli par le groupe. Et le groupe lui laisse le temps de se recueillir et ensuite de réintégrer le cercle.
Quand la première séance se termine au sein de la prison de Draguignan, on a une mise au point. Nous, les victimes d'un côté et les auteurs de l'autre, dans deux salles différentes, on fait un point avec Marthe et les personnes de la communauté aussi pour expliquer comment on a ressenti toute la séance. S'il y a un auteur qui nous dérange, il y a des choses qui nous ont dérangées pendant la séance, il faut qu'on en parle à ce moment-là. On a vraiment une parole ouverte à ce moment-là où on dit tout ce qui peut nous toucher, ce qui peut nous déranger et psychologiquement, de quelle manière on se sent pour pouvoir repartir aussi. Et y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Hein. Y a beaucoup de choses dont on est touché et dont on se dit on a envie encore de revenir parce que les histoires ne sont pas terminées, on a encore envie d'entendre et c'est chouette. J'attends toute la semaine ce fameux mardi matin pour pouvoir participer à ce groupe de justice restaurative parce qu'on a envie de savoir plus et on a envie aussi de s'exprimer, nous aussi. On a envie de raconter.
Alors, la deuxième rencontre, toujours rendez-vous devant la maison d'arrêt pour les personnes victimes. Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas si elles vont venir, en fait. C'est-à-dire qu'on les attend devant la maison d'arrêt, mais si la personne victime a décidé de ne pas revenir, on est dans l'expectative, en fait. Et finalement, ouf, elles viennent à toutes les rencontres pour entamer le parcours jusqu'à la salle de spectacle. Et les échanges commencent entre personnes victimes et personnes auteurs, entre participants. Ces rencontres durent 3 heures. En 3 heures, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au bout d'une heure et demie de partage, de dialogue, d'échange, on fait une pause qui dure un quart d'heure. Donc c'est un moment de convivialité. Et donc on a amené une cafetière pour qu'il y ait du café, une bouilloire pour faire du thé. Alors Emmanuelle a une requête importante à ses yeux à nous présenter. Donc elle décide de faire un gâteau pour le groupe et elle demande de ramener ce gâteau lors de la prochaine rencontre. Donc la réponse est oui.
Alors j'ai été acheter les gâteaux parce que mon gâteau fait maison, je l'ai loupé. Il s'était complètement cassé dans le plat. Donc du coup, je suis partie le matin à Marie Blachère acheter des petits fondants au chocolat et je leur ai ramené quand même parce que j'avais dit que j'aurais ramené quelque chose. Donc par politesse, j'ai ramené ces fondants au chocolat parce que ça fait du bien de manger des petites choses qu'on connaît de l'extérieur. C'est des souvenirs. C'est comme la Madeleine de Proust. Ils sont très touchés des gestes que j'ai pu leur apporter aussi en emmenant ces petites gourmandises. On est humains, on reste des humains. C'est des personnes qui ont été déjà jugées devant un juge, devant un procureur. Nous, on n'est pas là pour les juger. C'est surtout ça, en fait, pendant ces moments de parole, de groupe, de justice restaurative, c'est que nous, les victimes, on n'a pas à les juger. Non, ils ont été jugés, ils sont incarcérés, ils sont en prison. Nous, on est vraiment là pour leur faire prendre une prise de conscience de ce que la victime vit après les faits. Et on a besoin aussi d'eux parce qu'eux nous permettent de répondre à des questions que nous, victimes, on se pose aussi. Comme moi, pendant 2 ans, je me suis posé des questions et ni ma psychologue aurait pu me répondre ou un avocat ou qui que ce soit, personne. Les réponses sont seulement dans les paroles d'un auteur.
Les thèmes qui sont abordés au moment des rencontres, on peut dire que c'est un peu transversal. C'est-à-dire que chaque personne va exposer ses répercussions, donc l'acte commis et l'acte subi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a amené à être auteur de violences conjugales ou à être victime de violences conjugales ? Il y a un moment très fort où une personne auteur verbalise à une personne victime pourquoi elle n'est pas partie. La personne victime lui répond en expliquant le mécanisme de l'emprise. Il y a des échanges sur l'état de stress post-traumatique qui peut découler des violences conjugales.
Parce que les auteurs sont très très loin d'imaginer ce qu'une victime peut vivre. Eux, ils pensent que l'acte a lieu et qu'après cet acte, eux, ils sont condamnés et nous, on a notre petite vie qui reprend, quoi. Et on est très, très loin de cette réalité-là parce que toute victime de violence conjugale a des stress post-traumatiques, a des craintes, a des peurs, a des problèmes physiques, comme moi, j'ai pu l'avoir. Et tout ça, ils peuvent pas le savoir. Ils découvrent pendant ces séances tout ce qu'en fait, on peut subir. Comme des problèmes financiers, parce que moi, du jour au lendemain, plus d'argent, se retrouver en Banque de France, plus de comptes, plus d'activité, l'handicap et tout ça. Je leur montre ma blessure au bras pour qu'ils puissent avoir aussi l'œil de ce qui m'est arrivé et les dégâts que ça m'a fait aussi physiquement. Et ma cicatrice au jour d'aujourd'hui, qui est très douloureuse, qui n'est pas jolie du tout. Ils sont très choqués à ce moment-là. Je veux leur montrer à ce moment-là pour taper fort aussi, quoi. Parce que c'est pas rien. C'est pas rien. Une violence conjugale, ça va d'une gifle à beaucoup plus grave, jusqu'au meurtre. Et ça, il faut qu'ils prennent conscience. Les auteurs en arrivent même à nous dire « excuse-moi ». Alors que c'est pas eux notre propre auteur, hein, mais ils arrivent à nous dire excuse-moi parce que ils sont complètement bouleversés de ce que on vit. Et ça c'est le plus beau. C'est le plus beau de pouvoir entendre excuse-moi, parce que personne nous l'a jamais dit.
Le fait de pouvoir en être témoin, alors c'est très très fort, parce que quand on voit que cette colère qu'elle a pu intérioriser, elle a pu la ressortir au moment des rencontres et qu'elle repart sans cette colère, mais on se dit que son chemin, elle l'a tracé et elle l'a toujours dit, c'est-à-dire que même quand elle est arrivée au moment du premier entretien préparatoire, Emmanuelle a dit « je veux avancer ». Je ne veux pas stagner, je ne veux pas régresser. J'ai été victime de ces faits extrêmement graves, mais ce que je souhaite, mes attentes, mon attente, c'est d'avancer.
Marthe est très rassurante, c'est une personne qui est discrète aussi, qui ne coupe pas la parole, qui nous laisse entièrement parler. Elle nous laisse nous exprimer, Marthe, elle est complètement à notre écoute. Et ça, c'est très riche. J'ai toujours eu donc cette possibilité de parler, d'être réfléchie, de pouvoir reprendre la conversation sans être coupée. Et ça permet aussi de nous libérer complètement. C'est très dur de devoir revivre ces passages. Donc tout ce qui est dit dans cette pièce reste dans cette pièce, c'est ce qui vraiment nous permet de pouvoir approfondir des points, même chez les auteurs. Hein. quand ils nous expliquent les violences qu'ils ont faites, on est quand même dans du détail. Et c'est des choses que j'aurais pas pensé même à avoir autant de détails. Et je trouve ça même touchant et même beau. Il faut pouvoir le sortir, tout ça, il faut pouvoir le dire. C'est compliqué parce qu'on a le côté vraiment humain avec notre cœur, de compatir complètement avec la personne. Et puis de l'autre côté, il y a le côté « il a fait ça ». On est marqué par rapport aux messages qu'ils nous transmettent sur ce qu'ils ont vécu dans le passé aussi. Parce que derrière toutes ces violences conjugales, il y a quand même un passif derrière ces hommes-là dans l'enfance. Et c'est souvent des personnes qui ont vécu aussi chez eux, au sein familial, des violences conjugales de leurs parents, des jeunes qui ont souffert. Et qui auraient dû être écoutés, parce que peut-être que ça aurait pu éviter tous ces drames d'aujourd'hui. Et c'est très touchant, en fait, d'écouter aussi... le passif des gens. Alors après, je tiens à dire que j'excuse pas ce qu'ils ont fait, j'excuse pas du tout. Parce que des fois, on peut partir de chez soi, il vaut mieux claquer la porte et prendre l'air que de mettre des coups à la personne. J'admets pas du tout la violence. Mais après, c'est vrai que pendant ce groupe-là, nous, on arrive à pardonner, mais c'est un pardon intérieur qu'on a, c'est un pardon personnel. La colère, elle disparaît. Elle disparaît parce qu'on est complètement pris dans des sujets. On est touché, on a de l'émotion. J'ai le côté humain qui reprend complètement le dessus. Et la colère, elle s'en va. Elle s'en va, la colère. Je vois que je change, quoi. C'est super beau, c'est super beau au fond de moi. Je trouve que c'est super chouette. Mais des fois, autour de moi, en fait, on ne me comprend plus à la limite. Parce que j'ai plus cette colère.
Il y a la rencontre bilan le 31 janvier 2023. Et donc, on se retrouve devant la maison d'arrêt, donc à un mois et demi après la dernière rencontre. Et donc, le sentiment qui domine, c'est le sentiment de joie de pouvoir se retrouver. Après, c'est un mois et demi qui ont paru une éternité pour les participants. Et donc, quand on commence la rencontre bilan, on a des sourires, on voit que les personnes sont à l'aise, que le groupe est content de se retrouver. Et chaque personne va faire un retour personnel sur la mesure de savoir comment se sont passés les un mois et demi qui se sont écoulés depuis la dernière rencontre et comment ils se sentent aujourd'hui. Et on se rend compte que chaque participant a eu son propre rapport, en fait.
Ce jour-là, j'ai annoncé une bonne nouvelle. Le jour du 8 novembre, on a démarré donc cette justice restaurative et c'est le jour où... où je suis tombée enceinte. Alors, il y a un détenu qui m'a posé la question fin décembre, à l'avant-dernier rendez-vous avant la finale, parce qu'il me voyait manger beaucoup de chocolat à la pause café. J'y ai dit, écoute, je sais pas, on en parlera une prochaine, quoi. Et puis, lui était persuadé donc, que j'étais enceinte. Il s'est pas trompé. Et... je leur ai expliqué donc, que j'avais retrouvé quelqu'un dans ma vie. Ça faisait un an et demi que j'étais avec la personne. Et ça fait du bien à tout le monde aussi d'entendre que l'amour peut exister et qu'on peut être heureux. Ils sont très touchés. Ils ont tous le sourire. À cette finale, on est tous rayonnants. On a tous changé, tous. Et je pense que même nos visages sont moins tirés, on est reposés, quoi. Tous beaux. On s'apporte des petits cadeaux. Il y a eu un échange donc à la fin de cette séance. Eux, ils sont en prison, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas la possibilité d'être à l'extérieur pour nous offrir quelque chose, mais ils ont pris ça à cœur. On a chacune des dessins ou des poèmes. Ouais. Je leur ai offert un bouquin. Compte à grandir, compte à guérir, de Jacques Salomé. Et en fait, c'est un bouquin où on ouvre une page et très souvent, on tombe sur notre passage de vie. Ils sont touchés aussi du geste. Hein. C'est pas spécialement le cadeau, c'est ce côté de partage surtout.
Quand on s'inscrit dans ce processus, ce qu'on dit aux personnes qui vont participer, c'est qu'une fois que le groupe est terminé, c'est fini. Il n'y a pas d'après, en fait. On met un terme au processus au moment de la rencontre bilan et les personnes ne sont pas amenées à se revoir, en fait. C'est des personnes qui ont tous vécu des séparations douloureuses, des séparations avec violence. Et là, ils se rendent compte qu'ils peuvent se séparer sans violence. Et ça, ils ont pu le verbaliser. C'est important. Très important. Tout ce processus a permis une réparation des vivantes. Et des vivants aussi. J'en suis convaincue. La justice restaurative, elle a été introduite en France en août 2014 et aujourd'hui, on est en 2023 et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la justice restaurative. Or, c'est un droit, en fait, pour les personnes. Chaque personne victime doit être informée qu'elle peut bénéficier d'une mesure de justice restaurative. Après, c'est pas toutes les personnes qui vont se saisir de ce droit-là, mais c'est comme le droit à bénéficier d'un avocat, le droit à être indemnisé pour les préjudices qu'on a subis, et la possibilité d'avoir en parallèle cet espace de dialogue au sein duquel on va pouvoir avoir des réponses aux questions qu'on se pose et aux questions auxquelles le système de justice ne peut pas répondre, ben, ça peut être qu'un plus pour les personnes, en fait. Et il faut qu'on puisse leur donner l'opportunité d'avoir ce plus. Voilà, en tant qu'acteur de la justice au quotidien, je suis convaincue que ça peut que faire du bien aux personnes qui y ont accès.
Ah oui, je suis réparée. Je me sens bien, je me sens reconstruite. En fait, ça a été vraiment un final à mon affaire. Un point final à toutes mes craintes, à toutes mes peurs, à tout ce processus qu'il y a eu de tribunal, de papier, de tout. C'est un stop à tout ça, quoi. Voilà, c'est, c'est un bien-être aujourd'hui. C'est, voilà, je suis dans le bien-être aujourd'hui. Il n'y a plus d'angoisse, stop. J'ai retrouvé tellement un bien-être que même mes cicatrices sont plus jolies. J'ai retrouvé une paix intérieure. Et d'ailleurs, très souvent, nous, victimes, on n'évoque jamais qu'on est victime. Parce qu'il y a un regard qui se porte, que ce soit au sein de la famille ou autre. On nous regarde différemment, avec des yeux de tristesse. Et c'est pas ce qu'on a spécialement envie en tant que victime à des moments. On a envie d'être soutenu, mais on n'a pas envie d'être regardé en tant que victime. Parce qu'on reste quand même des femmes. Et on est déjà démolies par notre agresseur. Aujourd'hui, je peux en parler. Parce que j'ai fait la justice restaurative et que je suis apte aujourd'hui à faire des témoignages et à dire que j'ai été victime de violences conjugales. Mais pendant 3 ans, j'ai jamais évoqué que j'étais victime. J'avais l'impression, avant la justice restaurative, d'être une survivante, quoi. Mais même d'être un peu même isolée, d'être cachée, j'avais plus confiance en moi, même au niveau travail, hein. J'avais perdu de la confiance en moi. Et aujourd'hui, ça y est, c'est reparti, je suis une fonceuse. Une fonceuse enceinte, ouais, mais je continuerai hein, jusqu'à mes 8 mois. Là, je suis à 5 mois de grossesse. Je suis à 5 mois, j'attends une petite fille. Donc, je vais la protéger aussi. Hein.
Cet épisode de passage a été tourné et monté par Marine Vlaovic. Somaya Dabesh était à la réalisation et au mix. À très vite.
Hold up. Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.